Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Rémi Brague, professeur émérite de philosophie à la Sorbonne et à l'Université Ludwig-Maximilien de Munich et auteur de nombreux livres. Et ce sera la première de deux émissions intitulées « Sur la religion », titre inspiré de son dernier ouvrage paru cette année chez Flammarion. Rémi Brague, une toute première question concernant le terme religion. Qu'en est-il au fait ?
Eh bien, vous avez fait allusion à mon titre. J'ai voulu qu'il soit parfaitement plat sur la religion. Enfin, on peut difficilement imaginer quelque chose de plus plat. Et je voulais effectivement mettre à plat ce terme que l'on considère la plupart du temps comme allant de soi. Enfin, tout le monde sait de quoi il s'agit lorsqu'il parle d'une religion ou des religions, et j'ai voulu montrer que ce mot était en fait hautement ambigu, et finalement que son usage actuel, en particulier lorsque l'on parle des religions, il y a la religion chrétienne, la religion bouddhiste, la religion musulmane, la religion, etc., eh bien, en fait, on se sert d'une acception d'un mot, du sens d'un mot qui n'est guère plus ancien que, disons, le début du XIXe siècle. Avant, on se servait d'autres termes, et le médiéviste que j'essaye d'être se souvient que dans le Moyen-Âge latin, hébraïque, enfin, juif et musulman, avant tout de langue arabe, on se servait d'autres mots qui tous pourraient se traduire par celui de loi. Alors on disait, bon, la loi des chrétiens, les grands scolastiques latins parlaient de la loi des maures, un maure M-A-U, pour désigner ce que nous appelons maintenant l'islam. Et pour parler d'une religion, ça ne marchait pas, d'autant moins que le mot latin religio, d'où notre mot français religion, est sorti tout à fait directement, voulait dire autre chose. Ça désignait la subdivision de cette vertu de justice qui était l'une des quatre vertus cardinales autour desquelles tout tourne, d'où leur nom. La religion consistait à rendre à Dieu ce qui lui est dû, de même que la justice, d'une manière générale, consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Alors, qu'est-ce qui est dû à Dieu ? Eh bien, des prières, l'adoration, la reconnaissance, la participation au sacrement, lorsque l'on est chrétien. Alors, tout cela, ça s'appelait religion. Mais pour désigner ce que nous appelons maintenant une religion, il préférait parler de loi, ce que je traduirais d'ailleurs, puisque le mot lui aussi est très difficile à comprendre adéquatement, ce que je traduirais par « système de salut ». Alors, c'est un salut qui peut s'obtenir soit par l'obéissance à des commandements, c'est le cas donc dans les religions proprement parlées de la loi, il peut s'obtenir par une ascèse personnelle, comme dans le bouddhisme, il peut s'obtenir par la foi et par la participation au sacrement, par la réception de la grâce, comme c'est le cas dans le christianisme. Donc, le mot, eh bien, il faut le prendre avec des pincettes.
Une autre question, donc, concernant l'usage du mot religion. Actuellement, on parle beaucoup de religion, ça, de plus en plus, je dirais. Et très souvent, on a l'impression que les gens qui utilisent ce terme le font avec un sens péjoratif. Ils lui accordent un sens péjoratif. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par religion ? Pourquoi parle-t-on tellement de religion ? Et qu'est-ce qu'on veut dire quand...
Mais je commencerai par me citer, si je puis me permettre. Je commence mon livre en faisant remarquer... alors là, cette remarque n'est pas de moi. Je ne sais plus trop qui a dit cela, il y a déjà peut-être 10 ans. Mais enfin, c'était quelqu'un d'assez intelligent. Je ne sais plus qui, je n'aurais pas donné un nom propre. Mais sa remarque, c'était que il y a 30 ans, lorsque l'on voulait faire rire, on parlait de religion. Et lorsqu'au contraire, on voulait que les fronts se plissent, que les bouches prennent une moue sérieuse, on parlait de politique. Eh bien maintenant, c'est un peu l'inverse. Quand on veut faire rigoler les gens, on parle de politique. Et quand au contraire, on veut leur donner le grand frisson, on parle de religion. Alors on parle de religion effectivement en un sens péjoratif parce que, les religions, entend-on dire, sont violentes. Alors il est bien clair que ce que les braves gens entendent par là, c'est l'islam. Ils ont peur des attentats, ils ont peur de ce que l'on appelle pudiquement Daesh, donc l'État islamique, peut-être feu l'État islamique, espérons-le. Et on parle comme ça de religion au pluriel, en utilisant un petit peu la même tactique que celle que l'on utilisait il y a quelques décennies, avant la chute du mur et avant la chute de l'Union soviétique. On ne disait pas le marxisme-léninisme, on ne disait pas le communisme, ne serait-ce que parce qu'il avait derrière lui l'armée rouge, on disait les idéologies au pluriel. On ne disait pas l'idéologie marxiste-léniniste, on ne disait pas le matérialisme dialectique et ou historique. Non, on disait les idéologies au pluriel. Alors ce passage au pluriel est une manière de brosser le problème sous le tapis et de mettre dans le même panier, par exemple, la religion des anciens Aztèques qui reposait sur les sacrifices humains, et le jaïnisme qui, aux Indes, pousse le respect de la vie jusqu'à une sorte de suicide volontaire. Alors mettre tout cela dans le même panier, coller là-dessus la même étiquette religion, c'est quelque chose que, disons qu'un philosophe, même modérément doué comme moi, trouve insupportable.
Que faire alors? Et peut-être pour aller me concentrer sur le contexte chrétien, est-ce que le terme de religion doit être redéfini à chaque fois qu'il est employé?
L'ennui, c'est que le vocabulaire de la langue française, comme d'ailleurs de toute langue, est limité. Alors nous avons ce mot-là, je ne sais pas trop par quel autre mot on pourrait le remplacer. J'aime pas tellement que l'on parle de spiritualité, ce qui d'ailleurs est un concept extraordinairement chrétien, puisque ça signifie ce que l'on fait sous la motion, comme disent les théologiens, sous la motion de l'Esprit-Saint. Et ça ne désigne pas n'importe quoi, ça n'est pas simplement cette dimension de l'homme qui a le sens de l'infini ou des choses comme ça, ce qui, d'une manière générale, ne mange pas de pain. Donc, gardons le mot « religion », mais ne nous séparons pas des pincettes dont j'ai parlé plus haut.
Et puis pour en finir, juste un mot, vous dites quelque part dans votre livre que dans la société actuelle, la religion est indispensable. Et pourtant...
Alors, ce que je dis, ça, c'est... Je pose cette thèse, évidemment, assez culottée, à l'issue d'un raisonnement assez complexe, que je ne développe d'ailleurs que marginalement dans le livre auquel vous faites allusion, et je lui consacre davantage d'attention et de pages, tout simplement, dans un petit livre que j'ai publié avant et qui s'appelle « Les encres dans le ciel », un titre évidemment imagé, qui signifie que notre point d'accrochage doit être en haut. Évidemment, jeter son ancre dans le ciel, c'est une entreprise difficile, ça suppose des nuages bien solides et des lanceurs bien musclés. Mais ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que l'homme, l'être humain, l'humanité dans son ensemble, ne peut peut-être trouver de justification à sa propre existence que si elle se sait poser... Et, en chrétien, je dirais aimé, voulu comme tel, par un principe transcendant qui, dans le civil, s'appelle Dieu. C'est moins prétentieux que de dire la transcendance, même si on met un T majuscule. Donc, ce que je dis, c'est que à long terme, nous allons nous rendre compte de plus en plus que les groupes humains et les sociétés qui prétendent se passer de Dieu, vont tout simplement disparaître. Et elles vont disparaître parce qu'elles l'auront voulu, parce qu'elles n'auront plus senti de raison d'être à leur existence. Et c'est en ce sens que je dis que la religion, si l'on veut, est indispensable. pas du tout pour, comme on l'a longtemps dit, pour lubrifier les rapports sociaux, pas du tout pour donner le sentiment d'une unité artificielle à une société, pas du tout non plus pour fonder la morale. Comme là, c'est un argument que l'on entend encore assez souvent. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'a plus de religion, on n'aura plus de morale? Bon, il me semble, en ce qui me concerne, que on peut tout à fait construire une morale, en tout cas une morale utilitariste, et qui permettra aux gens au moins de ne pas s'entr'égorger, ce qui, bon, serait un bon début, si l'on se fonde simplement sur le fait que les gens, eh bien, concluront entre eux une sorte de contrat. Je ne te coupe pas la gorge, mais en revanche, toi, tu ne me la coupes pas. Bon. Je ne te vole pas, mais toi, en revanche, tu respectes ma propriété. Je ne drague pas ta petite amie, mais toi, en revanche, tu laisses ma femme tranquille, et ainsi de suite. Donc, de ce point de vue-là, une société peut, me semble-t-il, se passer d'une transcendance. Il suffit d'un raisonnement un peu astucieux. En revanche, alors je le répète, pour ce qui est de d'établir ce que j'appelle la légitimité de l'humain, eh bien là, il faut une référence à un créateur bienveillant. Et c'est ce qu'apporte la foi biblique, et en particulier le christianisme.
Nous allons maintenant faire une pause, nous allons dans l'église, et ce sera un extrait de la liturgie du dimanche avant Noël, par le chœur byzantin de Grèce, dirigé par Lycourgos Angelopoulos. Et après cet extrait de liturgie byzantine par le chœur byzantin de Grèce dirigé par Lycourgos Angelopoulos, nous revenons à notre entretien avec Rémy Brague sur son livre « Sur la religion » paru cette année chez Flammarion. Rémy Brague, maintenant on va parler d'un sujet qui est très important, que vous évoquez dans votre livre, les relations entre la religion, je dirais l'Église, peut-être le rapport entre religion et Église, dans le contexte bien sûr chrétien, les rapports donc entre l'Église et l'État. Je dis ça aussi parce que dans le monde orthodoxe, nous avons très souvent, nous sommes tous originaires de pays où le rapport des fidèles à l'État est très différent à celui qu'on rencontre en France, par exemple, qui a un modèle très particulier aussi avec la laïcité. Et tout ceci demande une explication parce que très souvent, vivre cela est un peu difficile. Ça dépend de la manière, évidemment, et des gens qui appliquent.
Tout à fait. Écoutez, lorsque l'on parle des rapports entre l'Église et l'État, les deux mots là aussi, sont remplis de choses trappes. Hein, déjà, le fait qu'il existe quelque chose comme une église n'est absolument pas évident si l'on regarde le monde ancien. Rome, la Grèce ancienne, hein, la Grèce dite païenne. Bon, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a peut-être un embryon d'État, même si ça n'est certainement pas au sens moderne de ce terme, mais l'Église, bon, non, ça n'existe pas. L'Église, enfin l'équivalent de l'Église à l'époque, ben, c'est tout simplement la communauté des citoyens qui communie, si l'on peut dire, enfin le terme doit être pris ici dans un sens tout à fait élémentaire, dans le culte commun des dieux de la cité. Bon. Et à Rome, ben, là aussi, il y a une sorte de religion de l'État, de religion civile, mais il n'y a pas d'une part l'Église, d'autre part l'État. Alors ça, c'est une nouveauté chrétienne qui est apparue à partir du moment où, justement, l'État romain, hein, l'Empire romain, s'est rendu compte de la nouveauté du fait chrétien et s'est mis à le persécuter. Donc les rapports entre l'Église et l'État ont commencé très mal. Et lorsque vous êtes persécuté par une instance, et en particulier une instance d'État, la tentation de se confondre avec cette instance est évidemment très minime. L'État, c'est vraiment l'autre. Puisque c'est celui qui vous torture, celui qui vous fait mourir, celui qui vous fait toutes sortes de misères. Donc, pendant les trois siècles d'existence de l'Église, disons deux siècles et demi, si l'on veut être un petit peu plus avare, eh bien, l'État, c'était l'ennemi. Et l'État lui-même, l'État romain, considérait l'Église comme étant son ennemi, comme quelque chose qui devait être réprimé, éventuellement supprimé. Donc, ce qui s'est passé à un certain moment, c'est que un empereur romain a été suffisamment intelligent pour se rendre compte que cette religion qui ne disparaissait pas, mais qui continuait même à grandir malgré les persécutions, devait avoir en elle une énergie farouche, énergie qu'il était peut-être plus intelligent d'essayer de capter pour la mettre au service de l'Empire romain, plutôt que d'essayer de l'écraser. Alors cet empereur, c'était Constantin. Bon, il a fait quelque chose de tout à fait intelligent, non seulement du point de vue théologique, mais simplement du point de vue platement politique du terme. Il a décidé de lever la persécution. Donc, l'Église a pu se développer. Les gens qui étaient retenus par la crainte des persécutions de se convertir se sont convertis en masse. Il y a des tas de gens qui sont entrés dans l'Église. Et à la fin du IVe siècle, c'est l'empereur Théodose, donc un bon demi-siècle après Constantin, qui a décidé non seulement de ne pas persécuter l'Église, mais d'en faire la religion plus ou moins officielle de l'Empire romain. Et bon, nous avons vécu sur bien ce genre d'accord, si vous voulez, entre l'Église et l'État. Nous l'avons des deux côtés, dans les deux poumons, comme disait feu le pape Jean-Paul II, de la chrétienté, à savoir l'Ouest latin et l'Est, disons, de culture grecque ou slave. Nous avons décliné ça de manière différente, mais sur le fond d'une distinction de principe entre les deux éléments. Ce que l'on appelle maintenant séparation de l'Église et de l'État, on parle de cette fameuse loi de 1905 dont il est pas mal question en ce moment, c'est une manière un peu inadéquate de s'exprimer. Que séparation, ça voudrait dire qu'il y aurait eu une unité primitive et que l'on aurait déchiré ce bel ensemble pour en faire deux éléments, l'un étant l'Église, l'autre étant l'État. En fait, ce que l'on appelle séparation, ça n'est pas du tout la déchirure d'une unité primitive, c'est plutôt l'arrêt d'une collaboration, l'arrêt d'une coopération. Disons que les deux ont cessé d'être en phase. Situation d'ailleurs que l'on résume trop souvent. Alors là, je parle de la France, donc je me mets dans une perspective plus étroite. On appelle ça l'union du trône et de l'autel, bon, qui n'a jamais véritablement existé. Enfin, c'est le rêve de certains réactionnaires au moment de la Restauration. Mais si on regarde d'un petit peu plus près même l'histoire de notre pays, on s'aperçoit que l'Église et l'État ont été engagés dans un bras de fer qui continue d'ailleurs ce qui s'est passé dès Constantin, car il faudrait revenir là-dessus pour expliquer que dès que Constantin a lancé, si je puis dire, son OPA sur l'Église, eh bien, celle-ci a constitué des forces lui permettant de résister justement à l'assimilation par l'État romain. Alors j'en vois deux. Je vois le droit canon, hein, l'Église qui s'est donné des règles propres et qui ne sont pas, qui ne coïncident pas avec avec les systèmes juridiques laïques, si je puis dire, de la Rome antique, d'une part, et puis d'autre part, ce que l'on pourrait presque appeler les troupes de choc de cette différenciation Église-État, à savoir le mouvement monastique. Les moines qui ont pour but de mener dans le siècle le même genre de vie précaire au sens propre que c'était le cas sous la persécution.
Écoutez, le temps ne nous permet pas d'aller plus loin, mais dans 15 jours, nous allons continuer cette discussion autour de votre livre sur la religion. C'était donc Sur la religion avec Rémi Brague. La suite de cette émission, donc, dans 15 jours. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Marie Lepeintre. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.